Ailleurs, dans la forêt, Nolan sangle son sac à dos. Il pèse. Cependant, elle est persuadée que chaque objet ou morceau de nourriture qu'il contient est nécessaire. Rien de superflu. Elle se tient prête. Son sac est lourd, mais ses muscles entraînés. Elle n'a jamais cessé d'utiliser son corps, ni de le pousser jusqu'à ses limites. La plongée lui a appris ça. Malgré sa silhouette très fine, elle est capable de faire preuve d'une force considérable, et porter un sac à dos chargé sur plusieurs kilomètres ne lui fait pas peur.
« On y va ?»
Bonnie accompagne sa question d'un sourire triste. Difficile d'être joyeuse dans le deuil, après le décompte des morts. Difficile d'être joyeuse avec, sur la rétine, la vision du corps nu d'Ulysse, couché dans un trou puis recouvert de terre. En revanche, la mort des autres rappelle toujours aux vivants qu'ils le sont. Et Bonnie regarde Nolan avec la conscience aiguë de sa chance, de leur chance. Elles sont en vie, elles sont ensemble. Nolan répond à son regard. Elles n'ont pas besoin de parler, s'embrassent au pied de l'arbre qui leur a servi de maison pendant plusieurs jours, qui a abrité leurs caresses, l'expérience nouvelle d'une intimité qu'elles chérissent, étonnée, lumineuse malgré le chagrin qui les rattrape. Alors que Bonnie fait quelques pas pour rejoindre les autres, Nolan reste immobile, le visage défait.
« Tu viens ?»
Nolan renifle, les dents serrées.
« J'arrive. »
Bonnie comprend l'hésitation de Nolan lorsqu'elle voit Princesse atterrir au sol d'un bond souple. Évidemment, elles ne peuvent pas l'emmener. Et le plus dur, c'est pour Nolan, qui s'accroupit et enfonce son visage dans le cou de la panthère. Si elle lui murmure des mots d'adieu, Bonnie ne les entend pas. Mais elle devine la crispation des doigts de Nolan sur le pelage de l'animal, la tristesse de son amoureuse, des larmes peut-être, perdues dans le poil doux et tacheté. Princesse appuie son menton sur le dos de Nolan, s'abandonne.
« Je reviendrai te chercher »,
chuchote Nolan en se détachant doucement. La panthère bâille, se couche contre un tronc avec nonchalance, observe les adolescentes rejoindre les autres devant l'entrée de la mine. Bonnie serre fort la main de Nolan.
« Arrête de bouger !»
s'emporte Marie qui tente d'appliquer une pommade cicatrisante sur le visage de Lilou. La jeune femme grimace, des larmes au bord des yeux. Le commodore n'y est pas allé de main morte. Il lui a ouvert la pommette et la lèvre. Les bleus sur son visage disparaîtront vite, mais il faut que les plaies cicatrisent. Une infection serait fatale dans sa situation et dans l'aventure qu'il s'apprête à vivre. Le discours de Nolan devant les tombes de leurs amis morts n'est pas resté un éclat de colère sans suite. Leur décision est prise. Ils vont s'en aller vers l'archipel.
« Où est Yasmina ?»
demande Enoch à la cantonade.
« Quelqu'un l'a vue ?»«
Elle est partie vers la clairière où... »
Mais Adélis ne finit pas sa phrase, saisie par l'impossible formulation. Enoch comprend, remercie Adélis en posant une main sur son épaule. Le groupe est presque au complet, prêt à se mettre en route. Mendoza rassemble les armes dans un grand sac offert par Xa, un sac de toile avec deux anses que l'homme peut glisser en travers de son torse. Nina l'observe, terriblement soulagée qu'il ait survécu à l'effondrement de la galerie souterraine. Enoch part à la recherche de Yasmina. La clairière est à deux pas. Tous savent que sa perte est incommensurable. Ulysse était son ami depuis si longtemps. Elle n'aurait pas cru devoir imaginer sa vie sans lui. Les autres suivent Enoch des yeux, désolés par leur impuissance. L'adolescent disparaît entre les arbres, marche d'un pas décidé, puis grimpe sur un tertre pour gagner la clairière. Ses chaussures dérapent dans la boue. La forêt est encore chargée d'humidité. Il aperçoit enfin Yasmina, perdue dans l'immense parka d'Ulysse, les mains mangées par les manches trop longues. Sa chevelure cache son visage, penché vers le sol. Soudain, le pas d'Enoch est moins volontaire. Ses poings s'ouvrent et se resserrent, tremblent un peu. Il marche lentement vers Yas, s'immobilise près d'elle face à la terre encore meuble. Il n'interrompt pas son recueillement, cherche juste à lui faire comprendre qu'il est là pour elle. Par sa présence, tout simplement. Yas relève la tête brusquement, le dévisage sans expression. Ses yeux sont secs, perçants. Elle se tourne vers lui et attrape le col de sa veste. Le cœur d'Enoch s'emballe. Il a peur de l'avoir blessée en venant perturber ce moment qui n'appartenait qu'à elle. mais elle tire sur son col et l'attire vers elle pour l'embrasser passionnément. Le baiser est le plus intense et le plus triste qu'il ait jamais connu. Il reste enlacé devant la tombe d'Ulysse. Ce n'est pas la première fois qu'ils se prennent dans les bras, mais ce qu'ils vivent à cet instant n'a rien à voir avec les étreintes amicales qui ont précédé celle-ci. On dirait qu'ils se voient pour la première fois, se touchent pour la première fois. Lovés l'un contre l'autre, leurs visages tout proches, ils s'étonnent d'avoir mis tout ce temps pour oser.
« Il faut partir »,
chuchote Enoch.
« Je sais. On reviendra si tu veux. »
Yasmina sourit. Son regard quitte Enoch pour se poser sur le pied de vigne planté par Marie.
Si ça se trouve, quand on reviendra, il y aura déjà du raisin.
Possible, mais on reviendra.
Ou pas.
Il fronce les sourcils, se demande ce qu'elle veut dire.
Ulysse n'est pas ici.
Elle souffle doucement.
Il est dans ma tête maintenant.
D'un mouvement du menton, Enoch acquiesce, lui prend la main. C'est si naturel, évident. Il a l'impression qu'Ulysse leur sourit de loin, se moque gentiment d'eux, avec une phrase du genre « Ah ben, il était temps ». Quand ils retrouvent les autres, Marie est en train de leur donner une flopée de recommandations.
« De toute façon, vous êtes incroyablement fort. Je ne vous ai jamais vu malade. En revanche, en cas de blessure par balle, toujours désinfecter la plaie. Les instruments, les mains, toujours.
On part pas à la guerre ?»
Lâche Enoch.
Ne sois pas naïf. Ce que vous vous apprêtez à faire, c'est la guerre contre le Commodore, ni plus ni moins. Vous n'allez pas faire du tourisme en Écosse.
Un petit rire parcourt le groupe. Des images de landes vertes et le coup interminable d'une bête préhistorique leur traversent l'esprit.
Mais bon, si vous y tenez, rapportez-moi du whisky.
Mendoza se marre franchement.
Tourbé ? Évidemment.
Depuis l'affrontement mortel avec le Commodore, Marie fait pleinement confiance à l'ancien des forces spéciales. Et pour le groupe d'adolescents, désormais, il est l'un des leurs. Son œil ne s'est pas complètement remis de l'effondrement souterrain et sa paupière reste à moitié fermée. Ou à moitié ouverte, a dit Nina. Ça dépend de comment on choisit de voir les choses. Sa vue demeure bonne. Il n'était pas surnommé la chouette pour rien du temps où il bossait pour Fassinger. Alors que la troupe va se mettre en route, que chacun a embrassé les villageois et serré Marie dans ses bras, c'est Adélis qui les surprend.
« S'il vous plaît ?»
Tous se tournent vers l'adolescent, se taisent. Il n'a pas son sac avec lui, et Nolan comprend avant les autres.
« Adélis ?»
elle dit, posant son propre sac au sol pour pouvoir mieux l'enlacer.
« Quoi ?»
lance Enoch.
« J'ai loupé un épisode ?»
Je crois qu'Adélis a décidé de rester.
Lui glisse Yasmina.
Non, tu restes ici ?
S'étonne Enoch. Nolan libère Adélis de sa longue étreinte et il sourit.
Oui, je. J'aimerais bien, oui.
Mais demande pas la permission, couillon. Tu fais comme tu veux, c'est juste que tu vas nous manquer.
S'il y en a une qui fuit son regard et il le lui rend bien, c'est Nina. Ces deux-là n'osent pas se regarder, et tout le monde a les yeux braqués sur eux. Au point que, après Nolan, c'est Bonnie, Yasmina, puis Enoch qui embrassent Adélis avant de se diriger vers le camion, laissant aux frères et à la sœur le champ libre des adieux. Lilou agite la main, sourit à Adélis qu'elle a à peine eu le temps de connaître. Elle rattrape Nolan et Bonnie, qu'elle ne quitte plus depuis que le Commodore l'a jetée dans l'herbe de la hauteur d'un hélicoptère, frappée, choquée, sa vie passée détruite, sa survie remise en cause. Adélis s'approche de Nina, mais ils gardent tous les deux la tête baissée. Les habitants du village illégal ont salué les jeunes et sont repartis vers les arbres pour reconstruire les cabanes incendiées par les miliciens. Quant à Mendoza, il s'écarte, délicat, et entame avec Marie, à quelques mètres, un échange sur les mérites comparés du whisky tourbé et du whisky iodé. Adélis ne voit pas le visage de Nina. Ses yeux sont grands ouverts sur ses pieds, sur ceux d'Adélis, sur leur basket sale, celle de son frère légèrement brûlée par l'incendie.